Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier numéro de la première saison de C'est la faute à la
manette.
Ouah, ça marche bien maintenant après 26 émissions, je suis content. Une émission un peu spéciale car elle conclut pour nous une première année riche en rebondissements, riche en surprises, en super rencontres et en créations évidemment. Pour m'accompagner ce soir, j'ai toujours la Dream Team à mes côtés, j'ai l'homme qui ne se réveille jamais avant midi, c'est Ferdi. Salut Ferdi, comment ça va ?
Ça va. Comme un Gremlins.
Effectivement, il ne faut jamais te réveiller avant midi. Le technicien de l'émission, celui sans qui vos oreilles seraient épargnées par nos contenus, c'est Guillaume. Salut Guillaume.
Bonjour à tous.
Tu vas bien ?
Ouais, ça va, tranquille.
Très bien. Il est là, il n'est pas là, on sait jamais quand il est là, il se raserait la barbe pour 50 euros, il l'a dit, c'est Tom, salut Tom.
Salut à tous, salut Julien, ça va ?
Ouais, ça tient toujours pour 50 euros ?
Toujours, 50 euros.
D'accord, bon bah on verra ça après l'émission.
Ah, après vous pouvez me donner plus hein ?
Non, 50 euros ça suffira.
Ok.
Au programme ce soir, on reviendra un petit peu sur l'émission, sur l'histoire, sur les statistiques, on vous dira un petit peu pourquoi vous avez bon goût si vous nous écoutez. On n'oubliera pas non plus de vous faire des news comme d'habitude, Tom vous parlera d'un jeu que personne ne connaît.
J'ai hâte.
Ouais, professeur Gorfus fait son retour et vous donnera de super statistiques sur l'émission. Enfin, on vous parlera des meilleures fins de jeux vidéo. Attention, gros spoiler alerte ce soir. Et on finira par un quiz consacré à Pokémon et qu'est-ce qu'on fait un petit peu sur la saison 2. Donc, eh ben, c'est la faute à la manette 26, c'est parti.
C'est parti pour les news.
Pour les news.
Ouais.
C'est
oui,
parti.
Les news. Ouais.
Alors, les news. Alors, avant de faire les news, on va faire une question un petit peu générale qui résume un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur l'émission. Pourquoi devez-vous écouter C'est la faute à la manette ? Ce sera ma première question. Je vais commencer par toi, Tom.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait écouter C'est la faute à la manette ? Je pense que c'est parce que c'est la meilleure émission du monde.
D'accord.
Moi, je suis pas trop dans les hyperboles, donc je pense que voilà, jauger l'émission à sa juste valeur, c'est parce qu'on est des professionnels avec plus de 10 ans de carrière et qu'on adore ce qu'on fait.
On est allé à tous les E3 depuis 98.
Voilà, et c'est nous qui avons lancé en fait le concept d'émission de jeux vidéo dans le monde. Hein.
Et je rappelle que quand le crash du jeu vidéo est survenu, c'est nous qui l'avons sauvé.
Voilà.
En sortant
donc,
la NES.
Moi, je pense que c'est pour ces raisons qu'il faut regarder. C'est la faute à la manette.
Très bien.
Ça se regarde.
Aussi, oui.
On peut regarder l'écran qui défile.
C'est seulement
le lecteur qui défile.
Pour les abonnés premium.
Voilà. On lancera ça pour la saison 2. Guillaume, pourquoi est-ce qu'on doit regarder C'est la faute ou écouter C'est la faute à la manette. Ouais, tu m'as contaminé, Tom. Merci.
Parce que Tom a tout dit. Pourquoi en plus parce que c'est gratuit. Moi, vu que je fais des chroniques de radin.
En plus, ça vous fait économiser de l'argent.
C'est vrai.
C'est gratuit, donc c'est le meilleur argument, je pense, que je pourrais donner, vu que ça me représente.
Profitez-en, c'est gratuit pour l'instant. Voilà. Ferdi, pourquoi est-ce qu'on doit écouter C'est la faute à la manette?
C'est pour notre plan de conquête du monde, en fait.
D'accord. Voilà. C'est la première étape.
C'est la première étape. Donc, c'est important que les auditeurs soient là et nous soutiennent. Voilà, parce qu'après, quand on aura la conquête du monde, on leur donnera chacun un petit état de quelque part.
D'accord, très bien.
Un bout d'Afrique, un bout d'Amérique, bout d'Europe.
Alors maintenant, j'aurais une autre question pour vous. Pourquoi vous ne devez pas écouter C'est la faute à la manette?
J'ai la même chose pour la domination du monde, parce que si c'est nous qui dominons le monde, vous n'êtes pas dans la merde.
D'accord. Guillaume.
Parce que ça coûte cher de payer un abonnement d'Internet.
Ouais, c'est... ouais et puis Free, en ce moment, et le haut débit, c'est compliqué, quoi.
Ouais, voilà.
Exactement.
Donc, c'est compliqué.
Tom,
moi je trouve que c'est à cause de ces chroniqueurs qui sont vraiment les pires personnes du monde. Ils sont vraiment insupportables et en plus ils ont tous de la barbe, ce qui prouve bien qu'ils ne prennent pas soin d'eux en fait.
Ouais,
c'est des personnes sales.
Soit c'est des personnes négligées.
Surtout un qui raserait pour de l'argent, quoi.
Oui, ouais, voilà. Par exemple, voilà, c'est pire. Effectivement, avoir une émission où il y a quelqu'un, où il y a un membre, ne serait-ce qu'un seul chroniqueur,
en même temps,
qui oserait faire une modification physique à son corps pour simplement de l'argent, je trouve ça honteux.
On est tous des geeks gros à manger des pizzas et à boire du Mountain Dew.
Oui, voilà.
Bah ouais, avec des Doritos.
Voilà.
Est-ce que vous avez goûté le dernier sandwich de KFC d'ailleurs avec des Doritos à l'intérieur?
Non.
Ça doit être horrible.
Il faudrait qu'il le mixe avec celui qui a pas de pain mais du poulet à la place.
Ah, oui. Avec une sauce Mountain Dew, ce serait pas mal. Magnifique.
Voilà.
Bon, alors voilà, donc faites-vous votre avis. Peut-être que vous devrez continuer à écouter l'émission, peut-être pas. C'est à vous de décider désormais. On passe du coup aux news. Une news très intéressante, The Last Guardian. Vous savez quoi?
Il est pas sorti.
Eh ben, il est toujours pas sorti.
C'est important quand même.
Et là,
de le dire.
C'est important de le souligner.
Quel marronnier.
Je pense qu'on l'avait pas dit encore assez.
Non.
Ouais, non.
Et là, c'est très très important.
Alors, Guillaume, je t'ai entendu dire un mot technique de Jean-Michel Bettembourg. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est un marronnier?
Alors, marronnier en journalisme, c'est quelque chose qui revient souvent et que du coup, c'est facile à traiter comme information. Exemple, la rentrée des classes ou la neige.
Ouais.
Ce sont des marronniers.
Regardez vos murs Facebook. Voilà, c'est ça.
C'est un peu comme tous ces gens qui font le changement d'heure, qu'est-ce que ça va changer?
Une heure de sommeil en plus,
Une heure de sommeil en plus ou en moins?
Voilà, ce sont des marronniers.
Bah, c'est un petit peu ça. Bon, par contre, un jeu est déjà sorti cette semaine, c'est Dishonored 2. On vous le conseille, hein, puisque le premier était génial.
On vous le conseille d'avance. C'est sûrement une tuerie.
C'est français, Cocorico.
Ouais, faut soutenir des jeux.
Des
bonnes licences.
Voilà. Des bonnes licences et des jeux qui sont aussi bien que ça.
Et là, le jeu est sorti, il est complètement pourri, on passe tous pour des tocards. Mais on assume.
30 FPS, pas de scénario.
Également, le même jour, la PS4 Pro est sortie, donc vos jeux peuvent désormais tourner à 30 images par seconde pour seulement 400€. Ça vous tente?
Écoutez, pour seulement 1600€ de plus, vous pouvez les faire tourner à 60, donc moi je vous conseille.
Ouais. C'est qu'une question d'argent.
C'est qu'une question d'argent, et puis l'argent c'est quoi? C'est du papier?
L'argent c'est pas grand chose. Je veux dire, quand aurez fait une émission de radio qui vous rendra millionnaire, vous verrez bien que l'argent c'est pas.
On s'est su les fesses avec du papier, qu'est-ce que c'est du papier? Une news intéressante dans l'eau quand même, Ferdi?
Mass Effect Andromeda sortira au printemps 2017. Et ça c'est important, il y a le premier trailer qui est sorti et c'est...
ça déchire.
Bah, ce qui est bien, c'est que ça.
On dirait... Plus que le rendu de la PS4 Pro, déjà.
Bah, ce qui est bien, c'est qu'on dirait, on dirait l'univers de Mass Effect, mais on dirait pas l'ancien jeu Mass Effect. Donc, ça gagnait.
Alors, moi, le trailer m'a pas hypé du tout.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, ça ressemble pas à Mass Effect qu'on connaît. C'est
en
pas
fait,
les
c'est
mêmes
le
persos,
jeu Star Wars, ils se sont trompés de trailer.
Ouais,
oui, c'est ça,
mais...
Voilà.
Non, moi, vraiment, le côté action, race qui veulent rien dire, mais quand même, qui sont tous humanoïdes, ça m'a un peu cassé le bonbon. Déjà, dans Mass Effect 1, il y avait tellement de races qui étaient des blobs avec des tentacules, j'avais vraiment aimé.
Tu parles de Mass Effect ou du prochain jeu de Luc Besson
que tu vas regarder.
les deux, je vous laisse deviner, mais j'ai trouvé que dans les suites, il y en avait déjà vachement moins, et là, c'est encore pareil, tu vas dans une nouvelle galaxie, et tu tombes juste sur des mecs en armure, mais ils ont des têtes de crapaud.
Avec des têtes de reptiles.
Ouais, voilà, donc bon.
Sinon, tu veux peut-être l'édition collector avec sa voiture télécommandée.
Voilà, ce qu'on peut préciser, c'est que EA a refait le coup. Il nous fait une version collector sans jeu.
Mais pourquoi ils font
100 et quelques euros. Et bah, c'est pour satisfaire les fans. Non, c'est pour vous en
C'est pour être collector. C'est pas de collector.
C'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont fait ça avec Battlefield, je crois.
Ils ont fait ça avec Battlefield, Mirror Edge et Dragon Age Inquisition.
Mais c'est quoi l'intérêt?
Et bah, dépenser plus.
Mais j'arrive pas. Non, mais j'arrive pas.
170 euros la collector. Ouais. Imbattable.
Imbattable.
Voilà, c'est les meilleurs. La pire arnaque, c'était quand même Dragon Age Inquisition.
Oui. Ah, c'était un collector avec les pièces en plastique.
Ouais, voilà. Si vous voulez un jour pleurer devant une des pires collectors au niveau rapport qualité-prix, allez voir la vidéo de Benzaï. Hein,
je
pense qu'on le conseille
tout à fait,
sur Dragon Age Inquisition, c'est génial.
Vomis sur 20.
Et bah voilà, du coup, c'était notre dernière news. Game, tu viens de me lancer le jingle du jeu PC de ouais. Tom. Et comme ça, on va faire sa rubrique directement.
Ouais, comme ça, on sera débarrassé.
On sera débarrassé comme ça.
Fait.
Allez, c'est parti. You're traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.
Twilight Zone, Tom, bienvenue, c'est à toi.
Bienvenue dans la quatrième dimension, la dimension des jeux PC indépendants.
Et fier de l'être.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pas un, mais bien deux jeux, puisque c'est à peu près l'équivalent de la ludothèque indépendante du jeu PC. J'aimerais vous parler d'abord d'un jeu que peut-être vous connaissez, mais que je voulais vous recommander, c'est Papers, Please.
Est-ce
que...
Oh
j'ai bien camarade des gens, j'ai bien
oui,
des gens qui
je
connaissent.
Fini, je
bien,
t'aime, camarade.
Papers, Please. C'est un jeu donc entièrement indépendant dans lequel on va jouer un responsable de poste de douane.
Ça a l'air fascinant, vous dit comme ça.
Voilà,
un garde frontière.
Comme ça, effectivement, ça a l'air un petit peu pourri, mais c'est un jeu très différent de ce qu'on voit d'habitude et surtout très bien, d'où le fait que je vous en parle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? En gros, il va y avoir des personnes qui vont vouloir passer la frontière d'un pays d'Europe de l'Est vers un autre pays d'Europe de l'Est, donc évidemment les noms ont été changés, hein, mais tout ça n'est qu'une parabole. Et on va avoir des règles en fait au fur et à mesure du jeu. Par exemple, au début, on va juste vous dire, il faut que la personne montre sa carte d'identité, et si elle vient de tel ou tel pays, elle peut rentrer, et si elle vient d'un autre pays, elle peut pas. Et donc vous regardez juste, vous mettez un tampon, la personne rentre. En fait, les règles vont se complexifier au fur et à mesure, et tout ça va en plus être fait sous le couvert d'une espèce de guerre qui se passe, dont il faut vraiment un petit peu, dont on peut démêler soi-même les tenants et aboutissants, et c'est vraiment un jeu excellent. C'est en 2D moche, mais pas trop. Ça se joue vraiment très bien sur tout ce qu'on veut. Le parti pris graphique est assumé.
C'est vraiment super classe.
C'est vraiment excellent.
Et c'est un des rares jeux, en fait, où on peut choisir ou qui agit sur notre morale. Comme je citerai Catherine, dans ce même style de jeu, c'est des jeux qui influencent notre vision du monde à nous. Parce qu'on est un garde frontière et au bout d'un moment, on peut être taxé. En fait, à la fin de notre journée, on touche notre salaire en fonction du nombre de personnes qu'on a laissé passer et on peut nourrir ou pas notre famille. Et en fait, si jamais on est trop laxiste, ben on n'a pas assez d'argent, etc. Donc c'est un jeu qui peut aussi faire marcher notre conscience.
On arrive à des cas carrément personnels, enfin des choix personnels, c'est-à-dire par exemple une famille de tel pays qui vient de fuir la guerre, qui arrive devant ton poste frontière et que t'es pas censé laisser rentrer parce qu'ils sont de tel pays, parce qu'ils sont de machin. Si tu sais que si tu les refous à la porte, ils vont se faire buter. Tu peux choisir de les laisser passer. C'est vraiment des choix moraux qui sont assez intenses, je trouve.
Voilà.
Pour un jeu
2D,
c'était vraiment.
Merci beaucoup d'avoir parlé de ce jeu.
Merci de m'avoir
Je voulais vous en parler.
Merci,
camarade. Le deuxième. Alors celui-là, un peu honte à moi, je n'y ai pas encore joué, mais je veux vous le recommander puisque j'avais fait la démo. Non, Star Citizen, j'y ai joué par contre. Je voulais vous parler de Owlboy. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui devait sortir en même temps que Braid.
On va parler de Braid tout de
suite. Et qui devait être justement un des pionniers du jeu indé. Et en fait, le jeu ne sort que maintenant. Néanmoins, il est apparemment excellentissime. Donc là, on parle de 2D vraiment très 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 bien faite par des artistes qui sont très forts en animation. Donc pas du minimaliste du tout. Un jeu qui a pris 5-8 ans de développement pépère, mais qui est enfin apparemment entre les mains des PCistes les plus avertis. C'est un un Metroidvania-like apparemment, okay. Où on joue donc un enfant chouette, hein, donc all boy quoi.
D'accord, on rappelle Metroidvania. Hein,
donc moitié c'est... Metroid, moitié Castlevania, donc vous scrolling horizontal voilà. Et vertical comme dans Mario, où on va donc avoir au début peu de capacités, puis débloquer des capacités qui vont nous débloquer des nouvelles zones, mais aussi des petites choses nouvelles dans les zones qu'on avait déjà visitées. Et donc c'est un jeu d'aller-retour dans une map ouverte, la cohérence d'un open world.
Plateforme d'exploration
sur Switch. C'est ça, bien vu.
Voilà. Dans Oldboy, pourquoi c'est bien principalement donc,
parce que c'est sur PC déjà.
Voilà, déjà c'est sur PC. Oh, ouais. C'est un jeu qui n'est que pour les PCistes et donc c'est bien. mais surtout, c'est un jeu qui a apparemment un level design vraiment fantastique. C'est un jeu que tout le monde attendait et qui est un peu à la hauteur des attentes des joueurs, un petit peu comme l'était Fez à l'époque. Et je pense que c'est un jeu dont on parlera beaucoup, donc je voulais vous le présenter, même si j'y ai pas joué, je voulais vous le présenter histoire d'être des gros hipsters du jeu vidéo. Alors, et que dans quelques mois, quand tout le monde en parlera, on pourra vous dire écoutez, nous on vous l'avait dit dans C'est la faute à la manette.
C'est arrivé en premier sur C'est la faute à la manette.
Voilà.
Dans le même genre, il y a Salt and Sanctuary qui est un petit peu un Dark Souls voilà. Metroidvania sur PS4 et PC qui a l'air aussi excellent et que je testerai prochainement, peut-être.
On attend.
Voilà, et ce sera tout Tom pour l'instant.
Ce sera tout pour moi.
Merci okay. Tom.
Et on va accueillir l'autre là, donc je te laisse lancer son générique, je m'en vais.
Oui, bien sûr.
Et je te dis à tout à l'heure. Salut.
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 Bonjour professeur.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il n'y a pas de musique ? Ah si, il y a de la musique. Bonjour à tous et bienvenue dans Professeur Gorfus, l'émission qui revient toujours de temps en temps pour combler les trous. comment ça va ?
Ah bah ça va.
Va.
Alors,
ça va.
Guillaume, votre teint est très lumineux aujourd'hui.
Ouais, c'est la neige.
Est-ce que vous voulez voir l'arrière de ma camionnette tout à l'heure ?
Non, ça va.
Non, ça va. Bon. Alors, aujourd'hui est un grand jour car ça fait déjà un an que j'ai perdu complètement ma dignité en acceptant d'intégrer votre émission. Heureusement que Monsieur Tom, d'ailleurs, me paye bien. Merci.
Pas de problème.
Alors, je cherchais une idée de sujet et je me suis dit pourquoi ne pas jouer la facilité en s'inspirant de ce qui a déjà été fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté toutes les émissions en dormant une fois de temps en temps. Et j'ai fait de nombreuses statistiques et anecdotes sur l'émission qui sont probablement vraies, peut-être. Est-ce que ça vous tente de les écouter ?
Ah, je suis curieux.
Un max.
Ah, je suis curieux.
Alors, il y a des choses vraies, des choses pas vraies. Il faudra deviner lequel est lequel, effectivement. Alors, il y a 24,5 émissions disponibles en ligne. 25,5 avec celle-ci, car, anecdote, une émission s'est mal enregistrée et n'a donc jamais été diffusée. Il s'agit de l'émission sur Alan Wake.
Je pense que l'auteur d'Alan Wake... petite référence aux jeux vidéo, l'auteur d'Alan Wake a lui-même supprimé
je pense
la
que
moitié
c'est ça, effectivement.
Grâce à son talent créatif.
Une news intéressante, Mr. Nuts a été prononcé 141 fois.
D'accord. Et Fallout 4.
Fallout 4, je n'ai pas les statistiques.
Mr. Nuts 138 fois quand même par Guillaume sur les 141.
Oui, c'est ça.
Star Citizen est le grand champion, par contre lui, il a été prononcé 257 fois.
Ça ne m'étonne pas, je pense que ce n'est pas assez.
Une petite...
The Last Guardian aussi a été dit souvent.
Alors, j'avoue que j'ai fait que ces deux jeux-là, c'est les jeux qui revenaient un petit peu le plus souvent.
D'accord.
Ferdi a terminé environ 3 stylos entiers en faisant des dessins sur sa feuille pendant l'émission.
Alors là, aujourd'hui d'ailleurs, je peux vous dire qu'il est actuellement en train de mettre des poils, ou des guirlandes, je ne sais pas, autour du jingle du jeu PC.
Il est en train de finir son quatrième stylo actuellement. Alors, une statistique un peu plus intéressante, l'émission la plus écoutée et partagée semble être celle sur Zelda et celle de la DreamHack. Donc on sait un petit peu comment faire les putaclics pour l'an prochain.
Très bien.
Ah, merci l'inquiétant.
Merci professeur voilà. aussi.
Une statistique très intéressante, Guillaume n'a jamais en 25 émissions prononcé le mot ornithorynque.
Ah.
Je pense qu'il faut garder. Hein.
Je pense que c'est intéressant.
Cette virginité verbiale doit rester intacte.
Ne dis pas ornithorynque s'il te plaît Guillaume.
Ornithologue.
Ouf, on n'est pas passé loin.
Alors, une chose intéressante, est-ce que vous le saviez, si on enlève quelques lettres au titre de l'émission et qu'on en rajoute d'autres, ça forme Star Citizen.
Incroyable. Ouais. Bizarre, non ?
J'y avais pensé un peu, mais
conspiration.
Théorie du complot ?
Ouais.
On nous ment.
On nous spolie.
On est sponsorisé.
Une autre statistique intéressante, si vous souhaitez écouter toutes nos émissions à la suite, prévoyez 25h30, des chips, une pizza, des Red Bull et du calmant.
Et du Mountain Dew.
Et du Mountain Dew, effectivement. Une news intéressante sur notre ami Tom. Tom, ici présent, pense que l'œil humain peut voir au-delà de 30 FPS.
Mais c'est vrai.
Mais c'est plus fluide.
C'est plus fluide. promis.
Et également, une autre anecdote sur Tom, il doit faire notre nouveau logo depuis près de 6 mois.
Oh, plus que ça.
Pour ajouter Ferdi dessus, voilà.
Est-ce qu'on peut parler du premier logo aussi, que j'ai mis quelque chose comme 3 mois à faire. Donc je pense qu'en fait, j'essaye d'être toujours
Star
dans
Citizen
le faisage de notre nouveau logo.
Toujours Star Citizené.
Voilà, je vais attendre qu'on ait peut-être un cinquième chroniqueur.
Pour sentir celui à
4. Sentir le logo à 4, en fait.
C'est une très bonne idée, je trouve. Il existe une personne dans cette émission dont je tairai le nom qui a plus de 4 jeux Wii U, soit 4 fois la ludothèque de la console.
Incroyable. Est-ce qu'il n'y aurait pas une des personnes qui fait partie du casting de l'émission qui aurait une des rares bonnes collectors de la Wii U aussi?
Ah, c'est possible. C'est possible.
Ce serait incroyable.
Oh là là.
Dernière anecdote, des cadeaux seront à gagner pour les auditeurs et fans de la page Facebook dès le lendemain de la diffusion de cette émission. Ça, c'est pas une anecdote, c'est une vérité, puisqu'on va peut-être lancer un jeu concours très intéressant pour le futur.
Wow.
Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. Pour
Merci,
moi, ce
professeur.
Sera tout. Est-ce que je suis reconduit jusqu'à la saison prochaine?
On vous aime bien quand même, professeur.
Je sais pas si on a le budget, mais allez.
Puis de toute façon, vous allez pas lâcher Guillaume, donc autant que vous contrôlez.
D'accord. Guillaume, ma camionnette est toujours disponible.
Non, sans façon.
Très bien. Merci, à la prochaine fois.
À la prochaine fois, professeur.
Voilà, pendant qu'il s'en va, je propose qu'on écoute du coup la musique de Far Cry 3 avec I'm Sorry. On se retrouve juste après sur C'est la faute à manette dans Radio Campus Tour. On vient de s'écouter une musique de Far Cry 3 sur la BO de Far Cry 3 qui s'appelle du coup I'm Sorry, et on est toujours dans C'est la faute à la manette.
Oui, et on va passer maintenant au débat donc sur les fins de jeux vidéo, parce qu'on est à la dernière émission de la saison. Vous spoilez un petit peu comme les
alors
gros,
ceux qui n'ont pas beaucoup joué à des jeux vidéo, bah c'est bien, vous les ferez pas.
Vous les ferez pas, voilà. On vous fait gagner du temps. On vous fait gagner du temps, voilà. Et voilà. On manque de temps.
C'est un petit peu comme regarder quelqu'un qui joue sur Twitch, mais vraiment en accéléré. Donc, c'est encore mieux.
On prévient de tout gros spoil, bien sûr. Enfin,
alors je fais une petite dédicace à tous les gens qui me parlaient de Game of Thrones quand la série était sortie. Moi j'avais lu les livres, voilà.
Voilà, c'est la même chose. Sauf que maintenant la série est plus comme les livres et
je suis triste moi maintenant. Donc,
alors, j'aimerais faire un petit aparté moi aussi sur The Walking Dead où il y a eu un événement récent où tout le monde a pleuré alors que c'est pareil dans le bouquin.
Oui, c'est exactement pareil.
J'ai trouvé ça génial.
Est-ce qu'on peut spoiler cet épisode de Walking Dead parce qu'on est voilà on est.
Non, je pense qu'on n'est pas assez des sacs. Si on était une émission de ciné, ouais, pourquoi pas.
Voilà.
Là, on va se contenter de spoiler des jeux vidéo.
Là, on va déjà salir les jeux vidéo, donc.
C'est vrai, c'est vrai.
On va pas parler de la mort de certains personnages.
Voilà.
Par exemple.
Asiatique ou avec une moustache.
Voilà, on ne sait pas. Du coup, qui est-ce qui a envie de commencer là? Allez, Tom,
je vais vous parler surtout aujourd'hui de fins de jeux qui sont nuls à chier. De fins de jeux qui sont décevantes par rapport au contenu du jeu. Et le jeu pour moi qui a une fin misérable, c'est Rage. Rage, alors c'est quoi? C'est un shooter qui est fait par id Software, qui à l'époque en 2009 ou quelque chose comme
2009, ouais.
Enfin voilà, dans ces années-là, sort et est hyper beau, a une direction artistique de tueur, et donc c'est fait par id Software, donc les gars de Doom, donc c'est un gameplay vraiment aux petits oignons. Ça se passe dans un futur post-apocalyptique, on dirait vraiment du Fallout, c'est-à-dire qu'une météore a frappé la Terre et on a enterré des gens triés sur le volet dans des abris, pas comme dans Fallout hein, bien sûr, et les abris sortent de terre au bout d'un certain moment et on joue le dernier survivant de l'abri dans lequel il est.
Avec un petit mélange de Borderlands.
Voilà, ouais, un petit mélange de Borderlands. Il n'y a pas de loot, c'est-à-dire l'inspiration.
Dans l'esprit.
Mais voilà, dans l'esprit. Le jeu est assez gore, assez sérieux, et surtout, voilà, direction artistique, encore une fois, de haute volée. Le jeu est très, très plaisant. La campagne dure une dizaine d'heures, a pas mal de quêtes annexes. Quand j'y ai joué, j'étais fou. J'ai vraiment adoré. Surtout, les combats sont vraiment viscéraux. On peut prendre les combats de plusieurs façons différentes. Enfin, voilà, plein de choses géniales. Et là, on arrive vers la fin du jeu, on se dit qu'on va se battre contre des mecs qui ont accès en fait à la technologie, alors que justement dans le Wasteland plus personne n'a cet accès là. On va enfin se battre contre ces gens, on lance un assaut, on a l'impression d'être aux deux tiers du jeu à peu près, hein. C'est-à-dire quand la résistance va se lancer, etc. Notre mission, elle est activer un satellite qui va faire sortir de terre les autres abris. Et donc, il va y avoir d'autres gens du passé, du futur, avec accès à la technologie pour contrer cette sorte d'enclave locale. Et on nous donne le BFG. Donc le BFG de Doom, donc qui n'est pas du tout pareil dans le jeu, mais qui s'appelle le BFG, donc énorme clin d'œil. Je commence à prendre mon pied de façon maximale. Le niveau, comment j'arrive vers ce que j'ai l'impression d'être la fin du niveau. Petit combat de vague d'ennemis, et là, cinématique 2. J'ai recompté 26 secondes, fin du jeu. On voit juste, en fait, on appuie sur un bouton, petit dézoom de la caméra qui montre donc un satellite s'ouvrir. On voit le satellite du côté spatial renvoyer la donnée. On voit un abri s'ouvrir. La caméra rentre dans l'abri, écran noir, fin. Wow. C'est une des fins les plus abruptes de jeux vidéo. J'ai cru à une blague, j'ai cru que ça allait être justement peut-être comme dans certains jeux où ils mettent une fausse fin
ou un
à la Deadpool, quoi. Oui. Et non, ce n'est pas une blague. Petit clin d'œil à David de Gamecash qui m'avait dit joue-le et quand tu l'auras fini, reviens me voir. Et donc voilà, Rage, fin misérable.
Alors je suppose que c'était pour engager une suite derrière. Alors,
c'était peut-être pour engager une suite. DLC. Ils ont fait un DLC derrière qui était pas mal, mais jamais eu de suite à Rage. On en a voilà.
Rage a bidé en même temps.
On en a jamais eu. C'est vrai qu'il a bidé, ce qui est vraiment très dommage parce que c'est quand même Fallout 4 en bien quoi.
Effectivement.
Est-ce qu'il y a plus de RPG dans Rage que dans Fallout 4?
C'est Fallout 4 qui assume d'être autre chose que Fallout. Voilà.
Ok. Est-ce que tu avais un autre jeu avec une fin pourrie à nous présenter?
Alors oui, mais il faut d'abord qu'on parle d'un autre des jeux. D'ailleurs, c'est toi qui vas nous en parler. Je te renvoie ta balle. Tu vas nous parler de la fin de Lords of Shadow avant que je ne vous parle de la fin de Lords of Shadow 2.
Alors, Castlevania Lords of Shadow, donc c'est le jeu Castlevania qui est sorti sur 360, je crois, en 2008. Hein, ça date déjà un petit peu. Ça se passe, comme dans tous les Castlevania, dans ce qui semble être un petit peu une ambiance, quelque chose de moyenâgeux. Voilà, ouais. de base, voilà, tout se passe normalement, tu tues des monstres, tu arrives, tu montes, tu vas jusqu'au château, tu vas tuer Dracula. Et à ce moment-là, double révélation. La première, c'est que celui qui était parti combattre Dracula, c'est-à-dire Belmont, devient à son tour Dracula, il s'installe sur le trône et effectivement, il devient Dracula par la force des choses. Et la deuxième chose très intéressante aussi, c'est que le jeu ne se passe pas du tout dans le passé, mais il se passe dans le présent. Parce qu'une fois qu'il sort de l'église, qui semble faire un lien, je crois. Hein.
C'est un pas peu ça... après. Il non, s'endort non, pas.
En fait, c'est un flashback.
Oui, ouais, pardon, c'est un flashback.
Il s'endort.
Il s'endort et il se réveille, je crois, combien de...
Dans le futur.
Dans voilà, le futur.
Un futur, enfin, un futur proche, quoi, de nos jours, on va dire.
De nos jours, complètement de nos jours. On le voit traverser le vitrail et paf, hop, il se retrouve en plein milieu d'un New York contemporain. Et c'était un petit peu la grosse surprise. Moi, je m'y attendais pas du tout. Mm. Du tout, du tout, du tout. Et ce qui nous a donné du coup lieu à Lord of Shadows 2.
Voilà, alors Lord of Shadows 2, donc cette fin de Lord of Shadows 1 était vraiment excellente. Il y avait un côté vraiment mélodramatique du fait d'avoir créé soi-même Dracula, alors qu'on avait vu un ou deux vampires avant, c'est tout. Et donc voilà, à la fin, on se tapait quand même Satan, donc c'était pas rien. Dans le 2, donc le méchant du jeu revenait nous voir pour nous mettre des bâtons dans les roues, hein, tout bêtement, puisqu'on était Dracula. Et le 2 se termine donc sur un combat donc, qu'on attendait avec donc, de nouveau Satan. Et le combat est déjà assez décevant, comme d'ailleurs tout le reste du jeu, qui a eu un développement très chaotique.
Pas bon.
Et la fin de Lord of Shadow 2 est vraiment assez misérable, c'est-à-dire qu'on part d'un combat au-dessus d'une ville un petit peu futuristique, corrompue par sa propre technologie, puisée dans les flammes de l'enfer. Donc vraiment un truc très très grandiose. Satan a invoqué un espèce de behemoth qu'on a tué en grimpant dessus à la Shadow of the Colossus. Et la petite cinématique, on met un coup de poing à démon Satan à ce moment-là, qui sort de son espèce de forme démoniaque, qui se retrouve dans la ruelle, donc la même ruelle que le premier, que la fin du premier, et on le plante dans une ruelle sombre. Voilà, donc dans ce jeu, même si c'est quand même très résumé, la fin du jeu se résume à Dracula plante Satan dans une ruelle sombre à côté d'une vieille grille, et c'est la fin.
Ah oui,
voilà, rideau.
Là, j'avoue que c'est quand même décevant.
Voilà, donc on parle quand même de deux jeux et plus un autre sur 3DS. Donc on parle quand même d'une trilogie qui se termine là-dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est pas comme Rage où il y avait que juste un jeu qui se termine comme ça. Non, non, là c'est la fin d'une trilogie. C'est vraiment coup de couteau dans la poitrine dans une ruelle sombre à 22h30.
C'est particulier, effectivement.
Voilà.
Ferdi.
Moi, une fin qui m'a déçu. Parce qu'on va enchaîner ça, c'est la fin de Far Cry 3.
En fait, non.
Voilà, si, parce que
moi,
je vais dire mon avis. Cette puissance. Non, en fait, Far Cry 3, j'ai adoré le jeu, j'ai trouvé exceptionnel, etc.
Vous le recommandez mille fois.
Peut-être d'une deuxième partie du jeu un peu plus faible, mais ça reste du très haut niveau. À la fin, en fait, il y a deux fins. Il y a la première fin qui est une fin sympa où on se tape la chamane de l'île. On pas devient.
Forcément.
Voilà. Oui, mais c'est une des deux fins.
C'est une des deux fins.
Voilà, c'est une des deux fins. Et on fait l'amour. Donc, un bel truc en POV.
En subjectif.
Voilà.
Hein.
Pauvre. Voilà, pour les connaisseurs.
En pauvre.
Et elle nous tue, en fait. Elle nous sacrifie en expliquant que voilà, maintenant qu'elle a l'enfant en elle, plus besoin de nous. Et c'est une fin qui est quand même sympa. Mais voilà.
T'as pas intérêt à te rater, quoi.
C'est surtout une fin qui assume la transformation de son héros.
C'est ça,
Far Cry 3 parle de la transformation d'un mec normal en gros sauvage.
Voilà. Je suis un peu triste quand même que moi j'aurais bien aimé quand même devenir le roi de l'île et tout ça. Et la deuxième fin, alors celle-là, ça je crache dessus. C'est la fin, en fait, où après avoir massacré des tonnes de gens, après avoir été un héros de jeu vidéo, lambda ultra violent. Et il revient, il retrouve ses potes, il est en bateau et il accepte sa vie d'avant. Il dit oui, j'ai oublié tout ça, j'ai pas changé, etc. Et là, c'est genre un film d'horreur où à la fin Jason il va faire dentiste, quoi. Je crois que celle-là, ça, elle est dégueulasse.
Faut quand même dire qu'il y a une majorité de personnes qui ont choisi cette fin-là parce qu'en fait, pour avoir la fin en fait qui s'assume, il faut tuer ses amis dans Far Cry 3. C'est-à-dire on a nos amis qui sont sur un pilori et donc on a le choix de les tuer ou pas. Et en fait, on nous explique
avec
que
le couteau,
si on, voilà que avec un couteau rituel sacrificiel et donc que si on les tue, on peut devenir le chef de l'île et donc accepter ce qu'on est. Mais en fait,
ce qui est une belle fin.
Voilà ce qui est en fait une fin qui s'assume, mais je pense que les gens d'Ubisoft ont dû se dire on va pas les obliger à avoir cette fin là
voilà. Mais j'aime pas cette fin, voilà, moi je la trouve vraiment cette deuxième fin, je la trouve vraiment moyenne parce que ça renie un peu le jeu et j'aurais préféré qu'ils aillent jusqu'au bout des choses. Voilà. Qu'ils la proposent, c'est bien, mais voilà, je la trouve un peu dommage.
Alors, tant qu'on parle d'Ubisoft, on peut parler de la fin de Assassin's Creed 3. Je voudrais revenir là-dessus.
C'est pas la pire.
Je pense que c'est quand même un sacré doigt d'honneur. En gros, après avoir lutté pendant près de 4 ou 5 jeux, voilà, pour découvrir une super histoire, hein, d'ailleurs, qui est plutôt intéressante, avec l'animus, avec des dieux grecs, hein, arrêtez-moi si je me trompe.
Moi, je trouve que c'est quand même le beurre et la tartine. Ils ont trop étiré le beurre.
Voilà, ils ont
trop
un peu étiré,
tartine.
Certes, mais à la fin, on te dit, voilà, soit tu libères Athéna et voilà, le monde va être un petit peu en bordel, soit tu ne la libères pas et voilà. Et donc, tu te dis, il va y avoir un choix à faire à la fin.
Ça ok, paraît... c'est qu'il n'y a pas de choix.
Ça me paraît évident. Et du coup, qu'est-ce que choisit le héros ?
Il choisit de se sacrifier.
Voilà, pour ne pas libérer Athéna, et le jeu ne te laisse pas le choix. C'est-à-dire
que... Oui, ça, je suis d'accord.
On t'a teasé quelque chose qui avait l'air juste fou pendant près de 25-30 heures, et le jeu est d'un pénible en plus. Enfin, moi, j'y reviendrai tout le temps. Hein. Pour moi, c'est un des pires jeux jamais faits. Du coup, voilà, moi, j'arrive là, je vois ça, je balance ma console par la fenêtre, je mets le jeu dans mes toilettes et je tire la chasse à vie. On peut aussi parler vite fait de Far Cry 4 et sa fin qui peut se terminer le jeu en 15 minutes.
Ça c'est génial.
Ça c'est une bonne fin. Alors c'est-à-dire qu'au début vous arrivez, vous vous faites attaquer par Paganmin, le grand méchant du jeu. Il vous amène à sa table pour manger des crabes et des palourdes.
Et pour tuer un mec aussi.
Et il vous fait, bon bah ne bouge pas, j'ai un mec à aller voir pour des affaires.
Je crois qu'il a un appel téléphonique. Oui, j'ai commencé le jeu il y a très peu de temps.
Il a un truc pour lui, il a la lettre de sa mère,
en fait, il doit déposer les cendres de sa mère à l'hôtel. Et Paganmin te dit tout simplement, ne bouge pas avant 15 minutes, et moi je reviens dans un petit quart d'heure, voilà, tout simplement. Donc ce que fait le joueur, bien sûr, d'habitude, c'est qu'il se...
Il est censé s'enfuir,
en plus le jeu te dit, enfuis-toi, va-t'en. Et si tu ne fais rien pendant un quart d'heure, Paganmin revient, il a tenu parole, il va t'amener jusqu'à l'hôtel où sont...
les cendres de ta mère. Où tu dois répandre les cendres de ta mère.
Tu déposes les cendres de ta mère, tu t'en vas, le jeu se termine, un quart d'heure, et ça c'est absolument génial.
Voilà. Et c'est une belle fin.
C'est une belle fin.
Voilà. Parce que finalement, Paganmin...
Il est cool.
Il est cool. Et c'est là que tu commences à réfléchir, c'est quand t'as fait le jeu en mode bourrin et tout ça, tu te dis... Ah merde.
Ah mais je suis d'accord, dans Far Cry 4 aucun des deux camps n'est intéressant.
Oui, Far Cry 4 aucun. C'est l'histoire d'un mec qui met les pieds dans la soupe, hein.
c'est un jeu de chasse, hein.
Ouais. C'est un petit peu ça.
Avec les coudes dedans, hein.
Guillaume, on t'a pas encore trop
entendu. Vas-y, spoil un peu.
En jeu avec une fin pas terrible, c'est le dernier exemple que j'en date, c'est Shadow of the Mordor. Donc le jeu Warner Bros. Oui. Games,
génialissime,
très bon jeu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se calmer? Il est pas si bien que ça.
Il est sympathique, mais c'est
quand même un reskin d'Arkham, quoi.
Oui, c'est un reskin de Batman et d'Assassin's Creed, enfin tous ces jeux-là d'action un peu aventure, voilà.
Mais il est bien, hein. La boucle de gameplay est très minimale.
Le problème est que tu deviens surpuissant très rapidement, mais c'est pas ça le problème, c'est la fin. Du coup, on te tease pendant tout le jeu que va falloir te battre contre Sauron, quoi, un peu. Tu te bats contre Sauron, et Sauron, bah, c'est un QTE, il faut appuyer sur 3 boutons à la suite et t'as fini le jeu, quoi.
Alors que tout le jeu, justement, c'est basé sur des kills et des meurtres,
voilà,
super intéressants.
C'est, voilà, et tu t'attendais à un combat, et en fait non, c'est juste un QTE pourrave, mais vraiment nul. Mais nul.
Avec, pour le coup d'ailleurs, dans le système de combat, des animations qui sont quasi parfaites. Moi qui suis très sensible à la qualité de l'animation, l'ombre du Mordor m'a fait du plaisir dans mes fesses.
Ah bah, je suis d'accord. Vu que tu vas au-dessus de 30 FPS de toute façon.
Oui, voilà, c'est ma vue, supérieure.
Guillaume, je crois que tu en avais un autre
à nous
présenter.
Enfin nul, comme tu veux. Il y en a une qu'on pourrait faire débat plus tard. Bon, c'est Bioshock Infinite, mais on peut revenir sur la fin de Super Mario Bros. 2.
Ah ouais, ah. Intéressant.
Qui en fait, la fin de Mario Bros. 2, vu qu'ils étaient feignants, ils se sont dit juste dire, eh bah tiens, en fait, c'était Mario qui dormait et qui rêvait de ça.
Oui. Alors ça va un petit peu plus loin que ça, parce
que c'est pas un jeu Mario de base.
C'est pas un jeu Mario de base, et il fallait justifier que ce soit Mario qui soit dans un
monde qui est pas Mario.
Un monde et un gameplay absolument bizarre.
C'était un jeu japonais qui est sorti en France sous le nom de Mario, en Europe.
Ça s'appelait Doki Doki Panic, en japonais, et qui a été reskiné Mario pour se vendre beaucoup mieux. Aux États-Unis et en Europe.
Ça n'a pas fait un bon jeu,
mais voilà, il est quand même considéré comme Mario Bros 2 Et, ouais. Et The Lost Level est considéré comme 1.5. Maintenant, je crois que ça, c'était,
ça.
C'était un petit peu ça l'idée.
Bah, vous pouvez, on l'a retrouvé sur Super Mario All-Star d'ailleurs, le Lost Level.
Oui. Voilà. Ce que je trouve intéressant avec Mario 2, c'est que c'est l'exemple le plus vieux que je connaisse de jeu avec une fin pourrie. Avant, j'ai pas vu vraiment. Je connais pas vraiment de jeu.
Il y avait pas vraiment de scénario, genre.
Il y avait des écrans, un écran fixe avec un.
Non, mais justement, ça c'était pas pourri. Oui. Je veux dire, là c'était une fin qui était quand même un petit peu décevante.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Le jeu Jurassic Park où en fait la fin c'est l'animation à l'envers, tu vois.
Ah oui,
oui. Oui.
C'est dans quel jeu où il y avait un petit carton, c'était marqué Winner is You.
Winner is You.
Ça vous dit pas
quelque chose? Je sais pas, faut regarder les AVGN pour voir ça.
Je crois que c'était un jeu de boxe et tout. Bref, peu importe. Quelqu'un d'autre?
On va faire la fin de No Man's Sky.
Ouais,
on va faire la fin de No Man's Sky.
Ouais.
Je suis prêt à l'entendre cette fois.
Guillaume, tu la connais?
Bah, bien sûr.
Donc il y a que Julien qui la connaît pas.
Je vous écoute.
Donc No Man's Sky, moi c'est un jeu que je défendrai jusqu'à la mort.
Même la fin?
Yes. Alors, j'ai dit que la mort arrivait au bout d'un moment. Donc le jeu, on explore la galaxie, on répare notre vaisseau et on a un hyper propulseur de plus en plus puissant pour permettre d'aller au milieu de la galaxie.
D'accord.
Est-ce que tu es prêt, Julien?
Je vous déteste, mais allez-y.
Tu arrives au milieu de la galaxie.
Donc c'est quand même le but d'une soixantaine d'heures, hein. c'est pas court
minimum,
pour y aller. Voilà.
Minimum. D'accord, parce que moi j'ai traîné en route. Hein. Tu arrives au milieu de la galaxie, là tu vois un espèce d'écran, tu sais, comme si t'allais dans un espèce de warp temporel.
C'est genre interstellar, tu vois.
Voilà. C'est magnifique, tu reprends une période, tu dis « Ouah, qu'est-ce qu'il va avoir au bout ?» Et là, t'atterris sur une planète, comme au début du jeu, ton vaisseau est explosé, tu dois remettre toutes tes technologies dedans. Et en fait, c'est une boucle.
Putain.
Voilà.
Sérieux ?
Ouais. La fin c'est le début.
Et tu comprends que le début, quand t'avais ton vaisseau explosé, en fait tu venais déjà d'une autre galaxie, tout ça.
Ah mais ça va, je m'attendais à pire.
C'est horrible.
Il n'y a pas de fin en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un mec sur internet, je crois qu'il l'a fait 5-6 fois de suite.
Il y a rien. Même 16 fois. Hein,
et ça reboucle.
Non, honnêtement, j'imaginais un écran noir avec un petit test philosophique de
genre Winner is You.
Winner is You, tu vois.
Je sais pas, j'aurais presque préféré. Parce que là, ça fait comme s'il y avait pas de
congratulation.
J'aurais préféré un écran avec le tweet.
Ouais, j'aurais préféré un écran
avec le tweet. Moi, j'ai fait une erreur, t'imagines.
Non, c'est assez décevant parce que en fait, durant tout le jeu, on te tease qu'il y a quelque chose. C'est ça en fait qui m'a déçu. On n'aurait pas teasé dans le jeu avec les trucs archéologiques et tout ça. J'aurais dit voilà. Et là, on te tease, on te dit qu'au bout, t'as une récompense, un truc fabuleux. Non, d'accord. C'est pas fabuleux, voilà. T'es content, Julien?
Ok, et bah maintenant, Guillaume, il va ouvrir grand ses oreilles.
Guillaume!
Puisque.
Il est en train de mettre du son à fond, regardez le C!
Non?
puisque Ferdi va lui spoiler Life is Strange, les deux fins, évidemment.
Alors, Life is Strange. Alors, moi, il y a deux fins, donc il y en a une que j'adore et une que j'aime pas.
On rappelle Life is Strange, c'est un des meilleurs jeux de l'an dernier.
Il est insupportable.
Un jeu épisodique. Alors, Tom n'a pas de goût.
Alors, voilà, là, ce qui est bien, c'est qu'avec Tom, vous avez écouté, c'est une autre raison de nous écouter aussi, parce qu'on n'est pas catégorique sur les jeux, on n'est pas tous d'accord. Et même sur les jeux que normalement tout le monde devrait défendre ou détester, on n'est pas tous d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il faut nous écouter.
Je vous explique en deux trois phrases hein, pourquoi j'aime pas Life is Strange. Les personnages, je les trouve insupportables en fait. Je trouve le personnage de Chloé, qui est un des premiers rôles féminins, chiante. Pour moi, c'est une. Pour reprendre South Park, c'est une stupide pute trop gâtée.
Il n'a absolument aucun cœur. C'est pour ça qu'on l'aime.
Absolument aucun cœur. Et dès l'épisode.
Celle qui ressemble à la vie d'Adèle ?
Oui, exactement. Dès la fin de l'épisode 2, je l'ai trouvé déjà insupportable.
Allez, spoilons, mais bon, spoiler.
Alors première fin, donc c'est simple, il y a la tempête qui dévaste la ville finalement, qui arrive. La tempête qui était spoilée, qui était visible depuis
la première seconde du jeu.
Et donc on a le choix, on peut remonter le temps une dernière fois pour que Chloé meure ou non.
Pourquoi est-ce que Chloé mourrait?
Pas Chloé.
Si Chloé.
Oui.
La fille aux cheveux bleus.
Non, c'est Chloé.
Si c'est Chloé, la fille aux cheveux bleus.
C'est Max.
Et donc, si on choisit de ne pas remonter le temps, la ville est dévastée. On est en voiture avec elle. On se balade. Donc,
on se barre de la ville. En fait.
On se barre de la ville.
Alors moi, pourquoi Chloé mourrait?
Alors on va te l'expliquer. Voilà. Du coup, si tu remontes le temps, tu remontes à la première fois où tu as utilisé ton pouvoir, c'est-à-dire au moment où Chloé allait se faire tirer dessus au début.
D'accord.
Du coup, ça annule absolument tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait n'a servi à rien. Et tu te rends, et ce que je suppose être la vraie fin qui montre les conséquences que peut avoir le changement du temps sur la vie, sur les gens en général, qui est l'enterrement de Chloé. Il y a une fin très triste, assez triste, bien réalisée, avec une musique absolument excellente, où tu te rends à l'enterrement de Chloé avec ses parents, avec tout le monde. Tout le monde est sur place et c'est un moment assez émouvant et qui résume, je pense, bien tout ce qu'a voulu nous apprendre le jeu pendant toute l'aventure.
Et il y a quelques événements qui sont, genre l'arrestation du professeur, des choses comme ça, qui se font à ce moment-là durant cette cinématique. Alors moi, j'aime pas la deuxième fin. Moi, je suis pour la première fin où
pas moi.
Tu restes avec l'amour de ta vie, t'envoies chier le monde et tu fais fuck autant. Voilà. Moi j'aime bien quand on envoie. Quand on
mais
peut
du coup,
faire
la,
ça.
La tempête va quand même arriver.
La tempête est arrivée, elle a dévasté la vie.
La tempête non, a dévasté
même
la vie.
Si tu remontes le temps,
la non, tempête. Non, parce qu'en fait, la tempête, c'est le résultat de ta manipulation.
Voilà.
Le temps.
Ah, c'est ça. Ok, d'accord.
Tu vois, t'as brisé ta main pour une vie que t'as réussi.
C'est le temps qui revient, comme dans ce film, je sais plus comment il s'appelle.
L'effet papillon.
Voilà, c'est ça. En gros, est-ce que tu sacrifierais une vie pour sauver une ville entière ou est-ce que tu sacrifierais une ville entière pour sauver.
Est-ce que t'es égoïste ou pas?
En fait, je vais chier sur le jeu.
Vas-y.
C'est comme dans Infamous 2. C'est la même fin qu'Infamous en fait.
Oh là là,
c'est soit
là
tu
là
sauves
là
ta meuf, soit tu sauves la ville en fait. C'est ça ou pas?
J'aimerais que cet homme sorte.
Est-ce que mes mots peuvent s'appliquer aux deux jeux?
Oui, c'est. Calme-toi quand même un peu, hein, mais oui. Oui, c'est à peu près ça. Donc moi, je suis parce que c'est mon côté un peu bizarre. Moi, j'aime bien qu'on. Voilà. Mais c'est deux belles fins quand même. C'est deux fins vraiment distinctes.
Ok, alors il nous reste 5 minutes pour parler des fins. Du coup, j'aimerais vous parler de Bread, parce que j'aimerais quand même y revenir. Bread, c'est un petit jeu indé qui a été un des premiers jeux indé du Xbox Live Arcade à l'époque, hein, qui est fait par Jonathan Blow, qui a fait notamment The Witness il n'y a pas longtemps.
Tout à fait.
Un jeu d'énigmes assez.
C'est
assez
un tueur. C'est niveau game design, c'est un esprit de génie.
Ce mec est un fou, il fait presque tout seul, hein, d'ailleurs. C'est encore un des mecs qui se la joue un petit peu à l'ancienne. Et son premier jeu était Bread. Donc Bread, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est un petit peu un hommage. De base, en tout cas c'est ce qu'on pense, à Super Mario. Mm-hmm. C'est un jeu de plateforme, il y a des ennemis qui ressemblent vachement à des Goombas, tu peux utiliser des pouvoirs temporels pour remonter un petit peu le temps, pour faire utiliser dans des mécaniques de gameplay. Et donc le fil rouge du jeu, c'est effectivement comme dans Super Mario, la princesse a été enlevée par un méchant chevalier cette fois, et tu dois partir à sa recherche pour essayer de la sauver. Lors de la dernière phase du jeu, assez difficile de plateforme, toi et la princesse, du coup, qui s'est libérée un petit peu des chaînes de son oppresseur, essaye de t'aider, en fait. Elle est au-dessus de l'écran et elle active, par exemple, des leviers au bon moment pour que tu puisses passer des portes. Toi, tu actives aussi des leviers pour qu'elle puisse passer des portes. Ça se passe bien, tu arrives au bout du niveau et au moment où tu t'approchais de la princesse, le jeu te fait un gros mindfuck, un gros mindblown total, c'est-à-dire qu'il repart en arrière. Et quand le jeu repart en arrière avec tes actions, tu t'aperçois que la princesse essayait non pas de t'aider, mais de te tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, le héros du jeu n'est pas un héros, le héros du jeu est un stalker. Le héros du jeu stalkait la princesse depuis le début. Le chevalier essayait courageusement de la protéger de toi, puisque toi tu l'as poursuivi absolument partout, c'est pour ça qu'il a changé de château à chaque fois. Et ça, tu ne l'apprends que sur les 15 dernières secondes
c'est
du jeu.
Harcèlement le jeu, quoi.
Harcèlement le jeu, mais tu ne t'en rends pas compte pendant le jeu, parce que dans ton idée, tu joues un clone du Super Mario, tu fais le bien, et c'est à la dernière seconde. C'est un des premiers jeux avec BioShock dans la même époque qui m'a rendu fou en me disant putain, c'est incroyable tout ce
prenez
qu'on peut
ça,
faire.
Les gros studios, prenez
ça. Ah ouais, mais ça c'était.
Après, ce qui était vraiment bien aussi, je trouve, c'est qu'il n'y avait même pas que ça en fait dans le scénario.
Oui, bien sûr.
Le jeu était parfait. Oui. Hein.
Voilà,
il y
avait aussi tous ces textes qui étaient écrits justement avec des explications en sous-texte, et d'ailleurs, ça liait des choses sur internet. Si vous avez vu le
Indie Game The Movie,
voilà, qu'on a vu avec Guillaume en cours, qui est bien, même si perceptible, regardez ce petit court-métrage. Ah ouais, c'est vrai.
C'est pas un court-métrage, c'est un documentaire.
Oui, c'est un documentaire. Dans Indie Game The Movie, on vous explique qu'en fait, justement, la fin de Bread a été tellement mal comprise par les gens que Jonathan Blow aller sur les forums pour expliquer la fin aux gens et qu'on pouvait presque l'invoquer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapaient. Oui, alors il paraît que si j'appelle Jonathan Blow, il arrive et il arrivait vraiment.
Trop bien.
Voilà, apparemment il y a une période et parce que personne ne comprenait le sous-texte
en
fait.
Ça l'a mis en dépression.
Voilà, ça l'a mis en dépression parce que tout le monde disait que son jeu était excellent, mais personne n'avait compris vraiment pourquoi.
D'accord.
Voilà, c'est un peu la tristesse, mais c'est beau.
Ok, il nous reste un peu de temps pour faire une ou deux fins supplémentaires.
Alors juste vite fait, Final Fantasy IX. Qui a 27 minutes de cinématique à la fin.
Ouais.
Et c'est magnifique. C'est-à-dire le jeu est cool et tout ça, et tu finis le jeu, tu dis bon, je vais faire comme dans les autres, je vais avoir 5 minutes de cinématique. Cinématique in-game, revidéo 3D, re-cinématique in-game, etc. La fin est super longue, il se passe plein de trucs, et voilà. Donc Final Fantasy IX, très très bonne.
Sinon, si tu veux mettre personne d'accord, la fin de BioShock Infinite.
Moi j'ai adoré.
J'ai aimé
aussi.
Moi ça va faire commencer le jeu. Directement.
Est-ce qu'on peut parler surtout de la fin des extensions en fait? Parce que la fin du jeu original.
Et on finira là.
Finissons sur un prix.
Alors, dans Bioshock Infinite, on joue Booker DeWitt, qui est un inspecteur qui doit aller chercher une meuf dans la cité flottante de Columbia. Et en fait, Columbia est gérée par un despote.
Père Comstock.
Voilà, par Père Comstock, une sorte de nouveau père fondateur. Et Père Comstock est très très méchant.
On apprend
il a une barbe blanche en plus qui prouve qu'il est
religieux
méchant.
En plus. Alors, total.
On avance un petit peu dans le jeu, dans sa critique des États-Unis qui est quand même un petit peu évidente, n'est-ce pas BioShock 1 qui était beaucoup plus subtil. Mais on apprend très vite qu'il y a des manipulations de temps, d'univers parallèles, etc. que justement Elisabeth, la fille qu'on doit aller chercher, est capable de faire. Et révélation de fin du jeu, révélation de ouf godin, comme on dit sur jeuxvideo.com, on apprend que en fait Elisabeth c'est la fille du héros. Ouais. Et donc première révélation, deuxième révélation, on apprend que Comstock c'est le héros, qu'en fait il a fait justement, puisqu'on parle d'univers parallèle, Père Comstock et Booker DeWitt d'un univers parallèle dans lequel il a fait justement un baptême qui l'a rendu très religieux après une bataille qui l'a traumatisé. Et donc Booker DeWitt est cette version-là quand il n'a pas fait le baptême, et donc il a rejeté la religion et il est juste devenu un petit inspecteur. C'était la première fin, et on apprend que du coup si on veut vraiment tuer Comstock, il va falloir tuer tous les Booker DeWitt, et donc à la fin on meurt. Elisabeth nous noie au moment, on revient au moment du baptême, à partir en fait on revient dans le temps au moment du baptême à ce moment-là avant qu'il y ait 1000 Booker DeWitt, et à la place de se baptiser on se noie dans l'eau du baptême. Donc c'était une fin excellentissime. Alors, on apprend surtout qu'en fait tous les Bioshocks sont liés, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire, du 1, du 2, du 3, c'est toujours un homme qui tombe sur un phare, qui va dans une ville dystopique et qui va essayer d'aller détruire l'oppresseur, mais qu'en fait c'est une boucle qui se répète, et donc on finit la boucle dans Bioshock Infinite. Donc c'était une fin qui trouvait le cul.
Ouais. Une mini anecdote sur Bioshock Infinite. Vous savez, donc tu l'as dit au début, il y a un baptême. Il y a une personne en Amérique qui a trouvé que se faire baptiser dans un jeu, c'était pas bien.
D'accord.
Du coup, il a appelé à la censure, pas du jeu, mais il a demandé à se faire rembourser de ce jeu parce qu'il y avait un baptême. Et effectivement, 2K Games a fait ok, vous êtes un peu débile sur les bords, donc on vous rembourse, on veut pas de problème.
Okay.
Voilà, c'était juste pour l'anecdote.
D'accord, amusant.
Voilà.
On parle du coup de la fin des extensions.
Vas-y.
Dans les extensions, on va jouer un autre Comstock, du coup, un autre Booker DeWitt, et qui est cette fois dans Rapture, donc la ville du premier BioShock. Donc là, alors érection maximale, évidemment. Et Elisabeth en fait vient nous chercher et pour justement pour quelque chose dont elle peut pas nous parler tout de suite. Et on va d'abord jouer un petit peu ce Booker et se rendre compte à la fin de l'extension qu'en fait on n'est pas un Booker mais on est un Comstock, et on est un des derniers Comstock, et donc Elisabeth s'est chargée d'aller tuer donc tous les Comstock. Donc on meurt à la fin. Deuxième extension, on va jouer Elisabeth, et là, triple, quadruple révélation, on va avoir un méchant qui va arriver, qui est Fontaine, le méchant donc du premier BioShock, et qui va aller nous tuer, en fait, tuer Elisabeth. Et surtout, c'est Elisabeth qui va aider le héros du 1 à être contrôlé mentalement. Donc tout le contrôle mental de BioShock 1, donc qui est la révélation du BioShock 1 quand vous spoil d'ailleurs là tout de suite, est venu de BioShock Infinite. Et donc on a de nouveau la scène de l'avion de l'intro de BioShock 1, mais du point de vue d'Elisabeth, où on voit très bien donc Jack, le héros du 1, détruire lui-même l'avion, et donc parce que c'est nous qui lui avons dit de le faire.
C'est beau, du coup ça fait une boucle.
Donc c'est une tuerie, et donc toutes les inventions du professeur chinois dont je vais l'appeler du nom raciste de Chang.
Je crois que c'est ça en plus.
Je crois qu'en plus c'est ça, ouais. Toutes les inventions de ce professeur-là ont été faites avec Elisabeth. Et donc là, voilà, triple, quadruple révélation. Moi, j'étais au plafond.
Ok, et du coup, on va finir là-dessus pour les fins du jeu vidéo. Ouais. Et on va passer au quiz parce que tout le monde l'attend.
Oui, le quiz.
Oui, le quiz.
Le quiz de fin d'année.
Putain,
j'ai pas
fait
de points. Pourquoi c'est toi qui l'as? Alors que mes yeux peuvent voir plus que 30 heures.
Casse de ce tableau.
Quiz.
Wow.
Alors, je proposerais de faire une émission spéciale quiz un jour. Ouais. On ferait que des quiz pendant une
pendant
heure.
Une heure.
Serait, où on ferait, enfin, je vais organiser ça, ça va être cool. Du coup,
on peut la faire pour la dernière de l'année.
Oui, on pourra éventuellement. Du coup, à l'approche de Pokémon Sun and Moon, on va faire un quiz spécial Pokémon.
Ah, t'es trop original, me dire, on fait un quiz GTA.
Pas quiz Digimon.
Du coup, je vous explique les règles comme d'habitude, des points pour chaque question. Sauf qu'à partir de la deuxième question, vous gagnez des cartes Pokémon jusqu'à, wow, jusqu'à l'avant-dernière et le dernier gagne un magnifique badge Naruto qui est là-dedans.
Et on est gâté. Hein.
Vous êtes gâté.
Soit sous le rapport en plus, c'est ça qui est bien entre Naruto et Pokémon. Ouais.
Du coup, la petite musique de fond.
Allié.
Ah oui, beaucoup mieux. Alors, première question, vous êtes prêts pour 2 points. Comment faire pour que Goupix évolue en Fenard ?
Guillaume. Pierre-Feu.
Pierre-Feu, très bien. Et tu as gagné la première question, mais tu ne gagnes pas de choses, parce que j'avais dit qu'elle ne valait rien. 2 points quand même. Combien y a-t-il de générations de Pokémon en comptant la dernière qui va arriver ?
Guillaume, 9.
Non.
Non, tome 8.
Non.
Ah bon ? Faire 17.
Oui.
C'est pas... Ah, je croyais que la 7ème, c'était XY. Tiens.
Non, et tu gagnes cette magnifique carte, ouais, dresseur.
Ah, attends, il faut que tu nous dises ce qu'il y a dessus avec la voix de Sacha.
Lien spirituel Stélix.
Avec la voix de Sacha ?
Ouais, j'y arriverai pas. Avec la voix de David Lafarge.
Prochaine question pour 2 points également. En utilisant la pierre soleil sur Ortide, quel Pokémon obtient ?
Guillaume, Jolifleur.
Oui, bravo, et tu gagnes cette magnifique carte Pokémon Grelasson.
Alors, je tiens à dire que Guillaume est le plus jeune d'entre nous, et que donc, bah, il avait 0 ans quand Pokémon est sorti.
Moi, ouais, bah oui,
c'est sorti, la loose, en fait.
C'est sorti l'année où je suis né.
Voilà, oh, donc on est un petit peu nul là, on se fait un peu victimiser.
Alors, la dernière statistique que j'ai trouvée là, ce sera une estimation. En 2010, combien d'exemplaires de Pokémon ont été vendus à travers le monde ?
Pouah.
En tout.
250 millions, moi, je dirais.
D'accord pour Guillaume.
Vas-y.
125
moins que ça, 70.
Et bah c'est Guillaume qui a exactement la bonne réponse. 250 millions. Je propose de lui mettre un point de plus.
Ah oui, oui,
4
je
points.
Pense. Ah oui, oui, non mais là, ouais, non mais là, il mérite.
Et il gagne bien sûr cette carte Tick.
Je pense que c'est l'âme, Guillaume est l'âme de Pokémon en fait.
C'est notre représentant officiel.
Offrez-moi Pokémon Lune et Soleil.
Question numéro 5 pour 3 points. Combien de films Pokémon sont sortis en France, ciné, direct ou DVD ?
Ah, en direct ou DVD aussi ?
Ferdi, 9.
9.
Moi je dis 10.
D'accord.
16.
Et c'est encore Guillaume qui est le plus proche. Ah. Il y en a eu 14. Et tu gagnes cette carte Trompignon.
Oh, un Trompignon.
Salut les amis. Question numéro 6 pour 3 points. Combien y a-t-il de types de Pokémon ?
Tome 20.
20, très bien.
Ferdi, il y en a 13.
13.
13 ? Tu es dingue. Ah, plus que ça.
Guillaume, 16.
16.
Je crois que c'est Guillaume qui a raison.
Alors, le problème, c'est que vous êtes à égalité avec Tom et Guillaume. Il y en a 18.
Il y en a 18.
Ah. C'est au milieu, donc je répartis les points. Je vais donner 2 points à chacun.
Et okay. La carte, on
s'est est-ce que tu peux nous donner une moitié de carte chacun, s'il te plaît ?
Par contre, je te donne la carte parce que Guillaume en a déjà eu plein.
C'est qui ?
Alors, j'ai eu un Pifeuille. Je connaissais même pas.
Ah, Pifeuille, il évolue en Balignon.
C'est vrai ?
Ouais. Non, file-lui la carte.
Alors, une question un petit peu plus difficile.
Ah.
Alors, vous connaissez cette histoire d'un épisode qui aurait provoqué des crises d'épilepsie au Japon. À quel Pokémon était-il consacré ?
Tentacruel.
Non. Il y en a eu un premier avant.
Dégouté.
Il y en a
eu un premier avant. Tom, Magnéti ?
Non, c'est pas celui-là.
Guillaume, Tartar. Tétard.
Non, je vous laisse encore un choix de réponse. C'est un Pokémon qu'on croise pas souvent, qu'on croise pas dans la nature. Dans les
Ferdi, Tauros.
Non, qu'on croise pas dans la nature.
Dans la nature. Est-ce que, alors, c'est débat, est-ce que le parc safari c'est la nature.
Le parc safari c'est la nature.
Métamorphe.
Non, pas loin.
Qu'on croise pas dans la nature.
Porygon.
Oui. Porygon.
Bien. Allez. Vu. Oui, ça me dit quelque chose en plus.
Tu gagnes un statistique.
Porygon, on le croise pas dans la nature ?
Non, bah tu non. Peux l'acheter qu'au
au casino avec le plus de jetons possible, c'est plus vrai. Cher.
Question numéro 8 pour 4 points. À quel niveau Psychoquack évolue en Aquaquack ?
126.
26, ok.
Niveau 22 ?
Non, ça doit être plus, moi je dis 36.
36, 22.
Niveau 30.
Ah, vous êtes encore à égalité, 33.
33, ils sont magnifiques.
Allez, on répartit les points, 2 points chacun. Et une carte...
Pour Guillaume.
Non, pour toi, il a déjà eu celle-là.
C'est quoi ?
C'est une...
Statitique ?
C'est un statitique. Ah, il est dégueulasse.
C'est un statitique ! Oh, je l'avais pas, les amis.
On dirait Amigalos, mais jaune.
Statitique, à l'attaque !
Enfin, non, il reste 2 questions, pardon. Question numéro 9, pour 4 points. Quelle est la seule version qui n'est pas disponible sur
Tom.
DS ?
Ah, merde. Tom Verte ?
Verte, ouais.
La seule version qui
bon, allez, on
la bleue, c'est la bleue.
Bleu, ouais, c'est ça, bleu rouge. Les versions bleues et
ah
rouges.
Ah oui, mais vert, il a gagné.
Parce que c'était rouge, feuille, vert, feuille qui était sur GBA.
Sur GBA.
Ah, mais Tom a gagné aussi.
Ah, je sais pas, la verte, c'est quand même un peu particulier.
Ouais, ça titille un peu, c'est vrai.
C'est que t'as pensé direct à sortir en France.
Ouais,
c'est
pas
France,
sorti du tout. Ouais. Quoi.
Voilà. Mais il a raison à moitié, je dirais quand même.
On donne lui un point, donne à 3 points à Guillaume. Voilà.
C'est quoi? Oh, un démenta avec vague faiblissante.
Est-ce que tu peux nous faire la description de la carte avec la voix du Pokédex?
Démenta, Pokémon de type Oh. Il peut utiliser l'attaque vague de soins qui lui donne 10 dégâts de soins et vague faiblissante qui donne 90 dégâts et qui perd moins de 10 dégâts. Sa résistance est de moins 20 sur les Pokémon de type roche et sa faiblesse est de x2 sur les Pokémon électriques.
Tu es engagé pour la saison 22.
C'est énorme, 90 dégâts dans le jeu de cartes Pokémon.
Ouais, mais bon, après, ça réduit après.
Ça fait longtemps que je l'ai
pas vu. Dernière question, et donc le gagnant remportera ce magnifique badge Naruto, ce sera sûrement Guillaume. Citez-moi 3 Pokémon pour 5 points qui n'ont jamais eu d'évolution.
Putain, oui, c'est dur finalement.
Jamais.
Est-ce que donc même des évolutions petites du coup?
Non, parce que c'est des pré-évolutions.
Bah Ferdi alors. Bah non, mais même pas.
Tom, c'est super dur. Mewtwo, Mew, Celebi.
Non, Mewtwo il en a eu. Mewtwo il a méga évolution.
Non, Mewtwo il a dit évolution, c'est pas méga évolution.
Ouais, c'est pareil.
Mais il prend des légendaires, c'est cheaté.
Ah, okay, les légendaires, c'est facile.
Alors on change la règle.
Sauf les légendaires.
Sauf les légendaires.
Voilà, Guillaume, Métamorphe.
Oui.
Ronflex. Vu
non.
Que tu m'as dit que c'était.
Il a une évolution maintenant.
Il a une pré-évolution.
Oui, il a une pré-évolution.
Ah, c'est ça, c'est ce que je te demandais en fait.
Pardon, tu n'as aucune évolution ou pré-évolution.
D'accord.
On a Métamorphe, tu en as un.
Alors moi je dis Tauros.
Tauros, oui, deuxième.
Écrémeux.
Ah non. Crémeux, non.
Non.
Ah, attends.
Non, il a un bébé.
Le Vénard.
Non, tu as raison, et crémeux. Crémeux, ça fonctionne, il a pas de pré-évolution.
Le Vénard, il en a un petit.
Il en a une pré, ok.
Donc, écrémeux, ça marche, tu en as 2 sur les 3, tu en as 1 sur les 3, on va encore répartir les points. Ça fait 1 point pour Tom et 3 points pour Guillaume.
Ah, mais alors, Guillaume, je veux pas dire qu'on compte pas, mais il nous a totalement laminé là. Et voilà.
Ouais, on dit qu'on compte pas, hein, de toute façon.
Ouais, non, on compte pas parce que.
Bah, alors, je pense que Guillaume va pouvoir ouvrir son badge Naruto.
Ah, t'as lequel?
Alors, dis-moi sur qui tu es tombé.
Attention, j'ouvre la boîte
en direct.
Les amis, attention,
est-ce que tu es très content?
Et c'est Sasuke.
Et tu es tombé sur un badge Sasuke.
Uchiwa, ouais, Sasuke Uchiwa.
Je ne savais pas que tu étais si méchant, Guillaume.
C'est que je suis méchant.
Et ben voilà, du coup, c'est la fin du quiz. Alors du coup, on fait quoi pour la saison 2, les amis?
Alors déjà, on fait des émissions de radio. Parce
ouais,
qu'on aime bien
c'est ça, c'est ça.
Nous, la radio, on aime bien voilà. Ça.
On va essayer de nouvelles rubriques, on va essayer plein de nouveaux concepts qu'on a fait l'an dernier, notamment avec le procès Zelda.
Oui.
On va essayer de faire des émissions en direct sur Twitch, de mettre les podcasts en
ça
ligne aussi.
Ça serait bien qu'on arrive à créer des événements aussi, ce
des
serait cool.
Des événements.
Dans des bars ou je sais pas.
On pense avoir un nouveau logo avant la fin de la saison 2. Mm. Voilà, plein de choses comme ça.
Puis
et...
on espère pouvoir parler de The Last Guardian dans la saison 3. Donc
c'est
ça veut dire dans 2 ans.
Et du coup, au lendemain de cette émission, on essaiera de commencer à lancer notre jeu concours. J'ai quelques petits jeux, moi, vous faire gagner sur la page Facebook ou en direct à l'émission. On essaiera d'organiser tout ça pour que ce soit le mieux et que notre émission soit toujours la meilleure de tous les temps. Donc c'est la fin de cette première saison. Merci
c'était
à
cool.
Tous de nous avoir écoutés.
Et on n'a pas de DLC en
merci
plus.
Merci à vous, on n'a pas de DLC, on vous adore et puis on espère que ça vous a plu.
On n'a pas de DRM.
On a pris beaucoup de plaisir à faire tout ça.
Ouais.
Voilà, et ben on vous dit à bientôt.
À bientôt,
à la saison 2.
On vous
dans 2
bisous.
Semaines, nous on prend pas de vacances.
Bisous.
Ciao. Salut.